L'honorer, ça veut dire lui accorder un traitement de choix, d'honneur. On honore en général ceux qui ont une place élevée. On honore un président, on honore un roi, on honore le Seigneur. On honore quelqu'un qui a une place élevée. Et le Seigneur nous demande, Marie, d'honorer nos épouses. Je dois avoir constamment en tête cette pensée. Montre-moi comment honorer ma femme. Lui rendre honneur, l'élever et non pas l'abaisser. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, si beaucoup de maris voient leurs prières inexaucées, ce n'est pas en premier lieu que Satan a mis des obstacles ou qu'ils sont attaqués par la puissance du malin ou que le monde les persécute, etc. C'est d'abord la première raison biblique, c'est que tu n'as pas honoré ta femme. Qu'il en soit ainsi pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Dieu qui est grand et qui est puissant me verra, moi, Marie, qui doit être un exemple et un Christ, entre guillemets, pour ma femme, c'est-à-dire un oint de Dieu pour ma femme, si je commence à la déshonorer, Dieu qui a le bras long va dire « Ah, je t'attends au tournant, tu m'as prié, eh bien, tu peux toujours attendre d'avoir l'exaucement de ta prière. » J'attendrai que tu commences à honorer ta femme. Honore-la et tu vas voir la réponse de Dieu à tes prières. Honore-la. Et il continue, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Et là, ça s'adresse au mari, bien sûr, dans le contexte. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef du foyer de son épouse. Donc c'est lui qui a au départ la responsabilité de donner l'exemple, d'être rempli de l'amour du Seigneur, d'être rempli du caractère de Christ, pour pouvoir avoir vis-à-vis de son épouse la même attitude que Christ vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Moi, j'ai besoin de la grâce du Seigneur, bien-aimé. Hein. Pour réaliser ce programme que le Seigneur met devant moi, j'ai vraiment besoin de la grâce du Seigneur. Et de vos prières aussi. Prions les maris les uns pour les autres, surtout si nous voyons qu'il y a des tensions et des tiraillements déjà dans un couple. Prions pour le mari en premier, pour la femme aussi, mais prions pour que le mari comprenne ses responsabilités et reçoive du Seigneur tout ce qu'il lui faut pour être un bon mari selon le cœur de Dieu. Maintenant, la femme. Dans le plan du Seigneur pour l'épouse, le Seigneur a voulu que l'épouse soit une aide pour son mari. Semblable à lui, mais une aide pour lui, et dans un rapport de soumission. Il faut qu'elle comprenne que le Seigneur lui demande de se placer sous l'autorité de son mari. Ça, c'est le plan du Seigneur. Le plan du Seigneur, c'est un mari Christ rempli de l'amour du Seigneur, mais un mari rempli de l'autorité du Seigneur, c'est-à-dire celui qui indique la direction, celui qui donne l'impulsion spirituelle, celui qui protège, qui nourrit, celui qui exerce une relation d'époux comme Dieu le veut. Et la femme en position d'aide, de soumission, d'obéissance, qui comprend qu'elle doit se placer volontairement sous l'autorité de son mari. Alors vous me direz, bon, ça c'est bien quand le mari est semblable à Christ, mais quand on a un mari difficile, de caractère, bon, ça c'est pas évident. Eh bien, je vais commencer par lire dans 1 Corinthiens 11. Quelle bénédiction quand le mari et la femme comprennent le plan du Seigneur pour chacun et entrent dans ce plan. Là, c'est vraiment la Shekinah de Dieu qui repose sur eux, la gloire de Dieu qui repose sur ce temple saint. Dans 1 Corinthiens 11 et au verset 3, l'apôtre Paul dit, alors cet apôtre Paul qui a été si injustement, à tort, accusé de misogynie, il dit au verset 3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef, la tête de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est-à-dire, dans la création de Dieu, Dieu a prévu que l'homme soit à la tête et que la femme soit placée sous son autorité. Et ce n'est pas péjoratif dans le plan du Seigneur du tout, du tout. Une position d'aide, c'est une position précieuse. Je l'ai déjà dit, ça veut dire que le Seigneur a jugé bon que l'homme ne pourrait pas s'en sortir tout seul sans aide. Enfin, en règle générale, hein, et que le Seigneur a donc prévu spécialement une aide pour lui permettre d'arriver au but que le Seigneur lui a fixé. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Bon là, il y en a peut-être qui vont dire, ça y est, il remet ça avec son voile. Mais je veux simplement vous montrer que cette question de voile n'est pas un petit détail. Quand elle est appliquée selon le cœur de Dieu, comme Dieu le veut et dans la pensée du Seigneur, ce n'est pas du tout un petit détail. De même que le baptême d'eau n'est pas du tout un petit détail. C'est un simple geste matériel, se plonger dans l'eau au nom du Seigneur. Mais il a une signification spirituelle très grande. Il a une symbolique de mort et de résurrection extrêmement grande. Et il ne viendrait jamais à l'esprit d'un chrétien évangélique vraiment rempli du Saint-Esprit de dire que le baptême d'eau, c'est un détail et que ce qui compte, c'est simplement de croire à Jésus. Et le baptême, on laisse ça de côté. Parce que ce qui compte, c'est la foi en Jésus. Là, de même, c'est exactement le même principe. Quand on a compris comment l'autorité de l'homme et du mari doit s'exercer et comment la soumission de la femme doit s'exercer, à ce moment-là, la question du voile, eh bien, elle prend sa place toute naturelle. Ce n'est plus un petit détail, mais c'est aussi quelque chose qu'on ne manque pas de faire dans l'esprit du Seigneur. Dans l'esprit du Seigneur, quand on a compris ce que ça signifie pour Dieu. Alors, il ne faut pas le voir dans un sens légaliste, c'est-à-dire des femmes qui sont complètement rebelles dans leur foyer et qui ne quittent pas leur voile de toute la réunion, c'est une parodie. Il y a des églises où on voit toutes les femmes voilées sans exception. Quand je vois ça, je dis, il y a un problème là-dedans. Il y a un problème. Où elles sont vraiment toutes parfaites et dans la soumission, et là vraiment, alors là, c'est rare. Ou bien il y a un esprit de légalisme religieux épouvantable, parce que si elles mettent vraiment ce voile, ça veut dire qu'elles sont vraiment dans le cœur soumises à leur mari comme l'épouse l'est à l'église. Mais dans la pratique, je préfère qu'une femme qui n'a pas été enseignée ou une femme qui n'a pas encore accepté cet enseignement, elle reste sans voile, je préfère qu'elle reste sans voile tant qu'elle n'a pas compris et qu'elle ne le fait pas du cœur, sans contrainte ni rien, plutôt que de le mettre par obligation religieuse, parce que sinon on va la critiquer ou qu'on va commencer à mal parler d'elle, ou par hypocrisie, parce qu'elle va montrer comme ça combien elle est soumise à son mari, alors que dès qu'ils ont fini la réunion, eh bien c'est la mégère non apprivoisée. Il ne faut pas porter le voile, mes sœurs, si vous n'avez pas compris dans quel esprit il faut le faire. Mais il ne faut surtout pas vous priver de le faire quand vous avez compris, parce que là, vous déshonorez le Seigneur. Et là, vous manquez ce que le Seigneur veut signifier par la mise du voile. Donc, il veut dire simplement que le voile est le signe visible de l'autorité dont elle dépend en tant que femme. C'est-à-dire de l'autorité du mari si elle est mariée et de l'autorité de l'homme si elle n'est pas mariée. Alors, je lis la suite au verset 5. « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. » Alors, là je parle aux femmes. Hein. Le Seigneur, dans son cœur, il dit « Si tu pries ou tu prophétises la tête non voilée, tu déshonores ton chef. » Qui est ton chef immédiat? Ton mari. Ou l'homme. Et si tu déshonores ton mari, tu déshonores aussi le Seigneur. C'est exactement comme si l'homme se mettait à prophétiser la tête couverte dans une église chrétienne. Si vous voyez un jour un homme commencer à se lever et puis mettre un grand chapeau sur la tête et commencer à prophétiser, vous diriez, il a un problème celui-là, quelque chose qui ne va pas. voyez que pour le Seigneur, le problème, ce n'est pas le voile, puisqu'il y a des femmes voilées qui prophétisent et qui déshonorent leur chef aussi, parce qu'elles sont rebelles dans leur cœur. Donc le problème pour le Seigneur, ce n'est pas le voile. Le problème, c'est le fait que la femme fait un acte de rébellion. Donc si elle ne met pas le voile, ça veut dire soit qu'elle n'a pas été enseignée sur ce qui doit vraiment se faire devant Dieu, ou bien ça veut dire que, ayant été enseignée, elle refuse de le mettre par rébellion devant Dieu. Tout en disant, Seigneur, ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas vraiment important, moi je suis libre de ça devant toi, tu m'aimes tel que je suis, tu ne vas pas me juger, ce qui est vrai d'ailleurs, le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Hein. Donc, je ne veux pas prêcher un Dieu légaliste et un Dieu vengeur et un Dieu qui est là pour nous frapper, mais je prêche un Dieu de miséricorde et de bonté qui veut bénir son Église et qui veut que les choses soient faites comme lui l'a demandé, comme lui l'a demandé. Donc, il ne faut pas en tant que femme que tu déshonores ton chef et prier la tête non voilée, c'est-à-dire prier avec encore un esprit de rébellion dans le cœur, eh bien, c'est une façon de déshonorer ton chef. Donc, avant de mettre le voile, je t'en supplie, règle ton problème de rébellion dans ton cœur. Je t'en supplie, femme non voilée, ne mets pas le voile tant que tu n'as pas réglé ce problème de rébellion dans ton cœur. Et une fois que tu l'as réglé, le voile n'est absolument plus un problème. C'est absolument plus un problème. Alléluia. Alors, l'homme, au verset 7, ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc, la femme est la gloire de son mari. Là, il parle de l'homme en général, mais à combien plus forte raison pour la femme mariée vis-à-vis de son mari. Donc, puisque nous parlons des responsabilités et des rôles respectifs du mari et de la femme, tu dois comprendre, femme mariée, que tu es la gloire de ton mari. Tu vois aussi ta responsabilité d'être remplie du Seigneur. Tu es la gloire de ton mari, ça veut dire que plus tu seras remplie du Seigneur, plus cette gloire va rejaillir sur ton mari aussi. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Donc l'homme premier, la femme seconde. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pour cela qu'en tant que femme, tu dois garder dans ton cœur cette pensée que dans le plan de Dieu, tu es la gloire de ton mari. Donc ça doit te motiver à rechercher de plus en plus le Seigneur pour être rempli de lui, parce que tu es la gloire de ton mari. Bien sûr, il s'enfonce dans la rébellion sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte. C'est triste. Et c'est triste qu'on fasse tant d'histoires avec ce voile, soit pour, soit contre, alors que pour le Seigneur, c'est quelque chose de tellement simple. Mais ce n'est qu'un signe extérieur d'une vérité intérieure qui, elle, est la seule à être vraiment importante. Le reste étant un signe extérieur qui vient confirmer la vérité qui existe déjà dans le cœur. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, verset 12, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Ça veut dire que dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme et l'homme sans la femme. Nous sommes en tant que chrétiens dans une relation spirituelle. Donc s'il y a sur le plan de la relation homme-femme, mari-épouse, une relation de subordination de la femme, une relation de soumission à l'autorité, sur le plan spirituel, il y a égalité parfaite devant Dieu. C'est simplement une relation de subordination dans la position de l'un par rapport à l'autre et dans le travail de l'un avec l'autre. Dans Éphésiens 5, verset 22, il vient de dire l'apôtre Paul que nous devons, en tant que chrétiens, nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et c'est selon ce modèle-là que la femme se soumet à son mari. Il ajoute aussitôt, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Ça ne peut pas être plus clair. En toutes choses. Évidemment, si on rapproche ça de l'enseignement de l'ensemble de la parole de Dieu, il faut ajouter aussitôt, sauf dans les choses que Dieu considère comme un péché, où mon mari, qui ne serait pas semblable à Christ, voudrait m'entraîner. Donc il faut bien replacer cette phrase dans son contexte. Il faut montrer que la femme doit avoir un cœur soumis à son mari, et tant que le mari ne lui demande pas quelque chose qui est considéré vraiment comme un péché, elle doit être soumise en tout. Ça veut dire que, par exemple, si ton mari, un dimanche après-midi, te demande d'aller promener avec lui et que toi, tu n'as pas envie, eh bien, s'il insiste en disant « Tiens, j'aimerais bien que tu viennes quand même m'accompagner pour promener avec moi », eh bien, si tu es soumise, tu vas dire « Oui, je viens avec toi ». Pour le faire plaisir uniquement. Ce n'est pas un péché dans lequel il veut te faire tomber, c'est simplement l'indication de la soumission que tu dois avoir envers lui. Donc, en toute chose qu'il te demandera, si tu discernes que ce n'est pas un péché, sois soumise. S'il te demande des choses même qui te sont désagréables, mais que tu ne considères pas comme étant des péchés, sois soumise. Fais-le. Il faut que tu demandes au Seigneur dans la prière, « Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur ?» Si ton mari veut que tu restes à la maison, que tu n'ailles pas à une réunion où tu vas recevoir l'enseignement de la parole de Dieu, alors que tu sais qu'il fait ça pour t'empêcher de vivre ta vie chrétienne, tu dois avoir la sagesse du Seigneur. Il n'y a pas de réponse unique. Tu dois dire, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» Et le Saint-Esprit te dira, « Vas-y, mais dis-lui avec douceur, avec fermeté. Dis-lui, « Non, c'est mon Seigneur que j'ai mis en premier. C'est lui qui passe avant toi, mais je dois y aller parce que mon Seigneur me le demande. » Et j'y vais, mais dans l'amour, et je te bénis et je t'aime au nom de Jésus. Et tu y vas, mais dans la paix. Ou alors le Seigneur te dira, attention, là, vu l'état spirituel où il est maintenant, tu vas dépasser les bornes, ça va être dangereux, tu risques quelque chose de plus grave, reste. Tu vois, donc il faut vraiment être à l'écoute de ce que le Seigneur dira. Il y a des moments où tu dois sentir dans ton cœur, non, je vais rester parce que, ou bien vraiment il a besoin de moi, là, vraiment. Il va être seul, il va penser que je l'abandonne, que je le laisse tomber. Il y a des hommes qui ont cet esprit de rejet aussi, qui ne sont pas au Seigneur, et qui ont besoin, ou même qui sont au Seigneur, qui ont besoin d'être rassurés par la présence de leur femme, ou qui ont besoin de la présence de leur femme. Et c'est vraiment sincère. Et Dieu peut te dire à ce moment-là, écoute, laisse tomber l'enseignement et reste avec lui parce que c'est moi qui te le demande. Où il te dira, écoute, non, il veut t'empêcher vraiment de faire ma volonté. À ce moment-là, vas-y. C'est l'exemple de Smith Wigglesworth et de sa femme qui était dans l'Évangile. Et lui, à un moment donné, a rétrogradé et il a commencé à exercer une autorité tyrannique et à dire à sa femme, écoute, ça suffit maintenant. J'aime pas te voir partir comme ça 2 fois par semaine. Tu restes, c'est moi le chef. Bon, l'autorité est typique dans la chair. Elle lui a dit avec beaucoup d'amour, eh bien non, c'est Dieu qui passe avant et je reviendrai après. Et il l'a prise, il l'a jetée dehors par la porte de devant, il l'a fermée, elle a fait le tour de la maison, elle est rentrée par la cuisine, ils se sont mis à rire tous les deux, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Mais elle a eu la réaction spirituelle. Et elle a continué à intercéder pour son mari et elle l'a relevé spirituellement. C'est lui qui rétrogradait, elle l'a relevé parce qu'elle est restée fidèle. Et bien souvent, même après la mort de sa femme, il a publiquement reconnu à quel point sa femme lui avait été précieuse pour intercéder, rester fidèle au Seigneur et lui indiquer le bon chemin alors que c'était lui qui rétrogradait. Alléluia. Dans Tite 2, l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2 et au verset 3, Tite 2, 3, Paul dit à Tite d'enseigner ça dans l'Église, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Alors, quelles instructions? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris pour que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ça veut dire que si la femme mariée ne fait pas ça, elle fait blasphémer la parole du Seigneur. Alors, vous voyez le tableau que le Seigneur trace là, de la femme mariée modèle, je relis ce passage, qu'elles doivent aimer leur mari et leurs enfants, être retenues, chastes. Chaste, ça veut dire avoir un comportement pur et réservé. Occupées aux soins domestiques. La volonté parfaite du Seigneur, c'est que la femme soit au foyer, qu'elle ne travaille pas dehors. Aujourd'hui, on ne peut presque plus imaginer une femme au foyer qui reste à s'occuper uniquement de son mari et de ses enfants. Pourquoi ? Parce que la convoitise de la chair et des yeux, où les besoins artificiels de ce monde sont tels qu'il faut avoir de plus en plus d'argent, un salaire ne suffit pas, il en faut deux, donc la femme va travailler, le foyer se détruit, les enfants sont seuls, il n'y a plus personne pour s'occuper du foyer. Dieu va bénir une femme qui reste à son foyer. Amen. Je ne juge personne, je me contente d'exposer des principes généraux. Maintenant, dans l'application pratique que vous en faites, vous dépendez de la direction du Saint-Esprit. Mais je suis sûr que le Saint-Esprit, une fois tenu compte des cas particuliers, veut nous amener dans sa volonté parfaite. Donc, si vous n'y êtes pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir du changement, et peut-être plus rapide que vous ne pensez. Parce que dans le plan parfait du Seigneur, surtout quand il y a des enfants, mais même quand il n'y en a pas, parce que le mari a besoin que son foyer soit tenu, parce que lui est appelé par le Seigneur à nourrir sa femme et son foyer, donc à travailler à l'extérieur, la femme doit être là pour tenir le foyer et s'occuper du mari et des enfants. Ça, c'est le plan parfait du Seigneur. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Maintenant, si vous lisez dans 1 Pierre 3, et au verset 1er, il parle aux femmes mariées, et il dit « Femmes, soyez de même ». Alors, quand il dit « de même », ça veut dire que ça se rapporte à ce qu'il vient juste de dire avant. « Soyez de même ». Alors, avant, il venait de dire au verset 18 du chapitre 2 « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. » Et au sens spirituel, évidemment, le mari, quand il a l'esprit de Christ, il est serviteur de sa femme. Christ est venu comme un serviteur. Ce n'est pas le fait d'être le chef qui va impliquer qu'on va se faire servir comme un chef de ce monde. Le chef dans l'Église, Christ, est venu comme un serviteur. Dans le foyer chrétien, le mari chef est le serviteur de sa femme. Mais la femme est la servante de son mari aussi. Donc, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Donc, il se peut que tu aies un caractère difficile ou que tu aies un mari qui a un caractère difficile. Le Seigneur te demande d'être soumise à ton mari qui a un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on n'a rien fait de mal. Si tu es femme chrétienne, que tu as un mari chrétien qui a un caractère difficile et charnel, le Seigneur te demande de lui être soumise en silence. Donc ça va demander de ta part un supplément de grâce du Seigneur pour que tu puisses le faire sans rébellion. Mais le Seigneur te le demande pour être vraiment semblable à Christ qui n'a rien dit quand on le maltraitait. Mais l'idéal, c'est que tu fasses comprendre à ton mari que lui n'est pas dans sa position idéale. Et le meilleur moyen de le gagner, c'est quoi ? C'est de faire ce que le Seigneur te demande. Alors je lis au chapitre 3, verset 1. « Soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole. » Vous voyez que Paul considérait ça comme l'exception. Dans les foyers chrétiens, les maris sont les premiers à devoir obéir à la parole. Ce sont eux qui entraînent leurs femmes après eux. Alors que là, il donnait le cas exceptionnel. Si quelques-uns, alors que maintenant c'est la grande majorité des maris, des femmes chrétiennes qui n'obéissent pas au Seigneur. Et souvent dans les couples chrétiens aussi, je dois constater que les femmes sont souvent plus obéissantes et plus spirituelles que leurs maris. Les églises sont souvent remplies de femmes et moins d'hommes. Vous avez remarqué ça, hein, à part l'exception. Alors écoutez la suite. « Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, comme c'est dur pour certaines, hein, sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voilà ce que le Seigneur te demande, femme chrétienne, être remplie d'un esprit doux et paisible et silencieux pour que tu puisses gagner ton mari ou, s'il est déjà gagné à Christ, que tu puisses le soutenir davantage par cette attitude simple, douce, tranquille, chaste, réservée, silencieuse, soumise. Et il dit là clairement, ne t'occupe pas de ta parure extérieure qui consiste à la coiffure, qui consiste aux bijoux et qui consiste aux vêtements recherchés. Hein? Bon, n'en fais pas ton souci numéro un. Hein, ça ne veut pas dire que tu ne peux jamais aller chez le coiffeur ou te payer des beaux vêtements, mais ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est que tu recherches et tu atteignes la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Les maris doivent être les premiers à l'avoir, cet esprit doux et paisible. Amen. Les premiers. Parce que là, il parle des femmes qui ont des maris qui n'obéissent pas au Seigneur et ils disent que le meilleur moyen de les gagner, c'est d'avoir cet esprit doux et paisible. Mais comme le mari est le premier responsable, c'est lui qui doit l'avoir en priorité, cet esprit doux et paisible, afin que si quelques-uns ont une femme qui n'obéisse pas au Seigneur, ils puissent la gagner par la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Imagine un mari qui serait tyrannique, autoritaire et qui forcerait sa femme à marcher avec le Seigneur. Tu crois que ça prendrait ça? Tu crois que c'est avec ça qu'elle viendrait au Seigneur? Elle viendra si son mari a dans son cœur l'attitude de Christ, c'est-à-dire l'agneau qui ne dit rien, même quand on lui marche sur les pieds, et qui ne fait rien, même quand on le traite injustement. Alléluia. C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est merveilleux comme programme, hein? Alléluia. Donc, je pourrais encore lire beaucoup de passages, mais là ça suffit pour résumer dans le couple chrétien ce que le Seigneur désire. Il désire un couple fondé sur un mari qui soit vraiment le chef spirituel, qui soit le modèle en tout, qui soit le premier en tout. Le premier, c'est-à-dire le premier à atteindre la perfection, le premier à être patient, le premier à être plein d'amour, le premier à être indulgent, le premier en tout. Et ensuite, qui exerce son autorité, sans crainte, avec fermeté, avec amour, agapé envers sa femme. La femme en a besoin dans le plan du Seigneur. Une femme chrétienne qui a un mari qui démissionne de son autorité, c'est une femme qui n'est pas en sécurité. C'est une femme qui est ouverte à des attaques de séduction. C'est une femme qui est ouverte aux attaques du malin. Donc il faut que le mari soit ferme dans le Seigneur, ferme dans son attitude, qu'il ait conscience que le Seigneur lui demande d'être le chef, mais le chef modèle, image de Christ pour son foyer, le chef qui donne la direction, qui nourrit sa femme, qui en prend soin, et des enfants aussi, mais là je parle du rapport de couple. Hein. C'est ça le modèle du mari. Le modèle de la femme, c'est la femme soumise, humble, obéissante en tout à son mari, qui est une aide précieuse pour lui, qui le complète et qui l'accompagne dans tout le ministère, le plan que le Seigneur a pour lui. Et une femme qui soit occupée aux soins domestiques, aux soins de la maison, de l'éducation des enfants et des soins à donner au mari. Et si le plan du Seigneur se réalise selon ce modèle-là, eh bien, le Seigneur met sa gloire au sein du couple et met sa gloire au sein de l'Église. Et ne croyez pas que cette position de la femme, encore une fois, est une position secondaire, hein. C'est une position indispensable dans le plan du Seigneur pour que tout soit à sa place comme le Seigneur le veut. Ce que nous voyons aujourd'hui, dans le monde et dans l'Église, c'est une perversion complète de ce plan. Et la perversion, elle se situe selon deux modèles qui sont dans le monde et qui malheureusement se retrouvent dans l'Église. Alors ce plan est perverti, soit le premier modèle, c'est le modèle du monde, hein, le mari qui exerce une autorité tyrannique, égoïste et cruelle, et qui a en face de lui une femme qui alors est complètement éteinte et qui est une lavette, quoi, par crainte du mari ou parce qu'elle en a trop souffert. Donc elle est complètement à l'état de passivité totale dans la crainte devant ce mari autoritaire et tyrannique. Ou alors c'est la femme qui est en complète rébellion parce qu'elle a une personnalité et puis elle ne se laisse pas faire, une pleine rébellion contre ce mari tyrannique et autoritaire. Donc ça, vous le voyez constamment dans le monde. Vous voyez des couples où le mari impose sa domination, est égoïste, ne pense qu'à lui. Et vous voyez des femmes qui sont là, qui ne font rien, qui sont tristes. Et qui ne... Ou bien des femmes alors qu'elles sont MLF et se décident, et puis divorcent, et puis disent « bon, tu veux faire ta vie, moi aussi », etc. Alors ça, c'est plutôt un modèle germanique. On voit ça plus souvent en Allemagne, c'est-à-dire des hommes qui exercent une autorité tyrannique et des femmes qui sont soumises dans le mauvais sens, ou alors qui se rebellent complètement. Alors que le modèle latin, c'est plutôt le mari démissionnaire et la femme qui prend sa place. C'est aussi le modèle américain. C'est le mari démissionnaire, c'est le mari qui essaye de se faufiler entre les mailles du filet, et c'est la femme qui a pris la place du mari, qui porte, comme on dit, les culottes, et qui a l'autorité qu'il exerce. La caricature la plus extrême, c'est le modèle italien. En Italie, vous voyez ça, vous voyez la perversion extrême, vous voyez la mamma italienne qui est vraiment la dominatrice du foyer, la mère matrone qui va dominer l'ensemble de la maison et qui détruit complètement le modèle biblique parce que le mari est complètement démissionnaire et parce que le mari, il passe son temps à l'extérieur, il ne veut pas s'occuper des affaires du foyer et il laisse tout entre les mains de la mamma qui n'est pas si dominée que ça. Et donc c'est un modèle perverti et vous retrouvez ce modèle au sein de l'Église catholique. Avec la déesse mère qui tient tout sous sa domination et qui en fait a pris la place de celui qui devrait exercer l'autorité, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, qui est devenu le petit Jésus, hein, le petit mari insignifiant, et la femme, la mamma, a pris la place. Donc c'est une perversion dans les deux cas. Alors, vous retrouvez ce modèle dans beaucoup de foyers chrétiens qui n'ont pas été enseignés dans le plan du Seigneur, ou qui n'ont pas résolu leurs problèmes parce qu'ils les avaient déjà dans le monde et qu'ils avaient déjà pris ce mauvais pli, soit de tyran autoritaire, soit de mari démissionnaire, ou soit de femme complètement dominée ou de femme dominatrice. Dans tous ces cas-là, c'est un modèle que le Seigneur veut complètement enlever de son Église. Alors vous voyez le travail que le Seigneur a à faire. Il doit d'abord révéler sa parole au mari, à la femme, ou à ceux qui viennent du monde, où ils sont imbibés de ce modèle perverti qui est dans le monde, et qui résulte du péché, de la désobéissance au Seigneur, du manque de connaissance de sa parole. On arrive là avec déjà des pensées déformées, des cœurs déformés, des habitudes complètement déformées, et on entre dans l'Église, et ce qui se passe bien souvent dans l'Église, c'est qu'on perpétue ce même modèle, sans s'attacher à la racine du problème qui est celui du péché, en fait, de la rébellion par rapport au modèle du Seigneur. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous tous qui sommes ses enfants, nous comprenions par la révélation de sa parole quel est le modèle biblique divin du couple, que le mari réalise quels sont ses propres péchés par rapport à ce modèle-là, en premier, soit démissionnaire, soit tyran autoritaire, que la femme comprenne quel est le plan du Seigneur pour elle et qu'elle comprenne ses propres péchés par rapport à son mari. Dernièrement, j'ai eu une discussion avec une femme mariée qui avait des problèmes avec son mari. C'était par communication téléphonique. Mais il y a une chose qui m'a vraiment réjoui. C'est un couple qui avait des difficultés très grandes et qui était d'ailleurs sur le point de se séparer, couple chrétien. La femme était en train de me dire au téléphone, « Mon frère, il y a quelque chose qui me réjouit en ce moment, c'est l'action du Saint-Esprit dans mon cœur pour me montrer mes propres péchés. » Parce que, en fait, si mon mari s'est écarté de moi, je comprends maintenant que c'est en grande partie à cause de mon attitude envers lui. Alors que jusque-là, Je ne voyais que ses problèmes et ses défauts qui sont très grands. Et je ne voyais que la manière dont il se comportait lui et que ses conséquences négatives sur moi de son comportement, mais je ne voyais pas mes propres responsabilités. Alors j'ai dit au téléphone, Alléluia, ma sœur, gloire à Dieu, ça c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. C'est là que le Seigneur commence. Nous rendre conscients de nos propres péchés. Le Seigneur m'a fait et me fait encore passer par une bonne repentance vis-à-vis de ma femme pour me montrer à quel point dans le passé je ne correspondais pas au modèle biblique et j'avais tendance à mettre le doigt sur ses défauts et sur ses problèmes alors que le Seigneur voulait que je tourne mon regard sur mes défauts et mes problèmes que je devais régler d'abord devant Dieu pour l'encourager après à régler les siens. Comme ça que ça doit se faire. Si chacun cherche devant Dieu la lumière du Saint-Esprit pour me dire, Seigneur, en tant qu'épouse, en tant qu'époux, tu vas me montrer où je ne corresponds pas à ton plan divin, dans quel domaine je ne corresponds pas, pour que je puisse me repentir de mon péché, te demander que le sang de Jésus efface mon propre péché, Seigneur, et que tu me révèles ton plan en tant que mari, en tant qu'épouse, pour que je puisse entrer par la foi dans ce plan et recevoir de toi la force nécessaire spirituelle pour être comme tu le veux. Jusque-là, j'étais un mari autoritaire, égoïste, etc. Ou jusque-là, j'étais une femme ou tyrannique ou démissionnaire. Eh bien, Seigneur, j'ai compris maintenant quel est le plan que tu as pour ma vie. Je veux entrer dans ton plan, je veux être un mari parfait, je veux être une épouse parfaite. Et si tous les deux, en tant que chrétiens, vous faites cela, mari et femme, à ce moment-là, le Saint-Esprit va pouvoir agir librement. Il va restaurer la relation, ou il va amener à Christ celui qui n'y est pas encore, parce que celui qui n'est pas encore à Christ aura en face de lui quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, et qui va pouvoir être utilisé par le Seigneur comme un instrument de salut. Donc on a besoin de deux choses, hein, en conclusion. On a besoin d'être éclairé par une révélation du Seigneur et de sa parole sur son plan parfait en tant que mari et femme. Et on a besoin d'entrer dans ce plan par une repentance profonde de ce que nous faisions avant. Une repentance de tous ces péchés où nous étions à côté du plan parfait du Seigneur. Et quand l'un et l'autre font cela, eh bien nous allons recevoir du Seigneur une onction supplémentaire de son amour, de sa pureté, de sa sainteté, et on va pouvoir apporter à l'autre ce que nous avons reçu du Seigneur. Alléluia. Amen. Si j'ai réussi ce soir, par la grâce du Seigneur, à nous rendre plus conscients de nos responsabilités personnelles devant le Seigneur et par rapport à notre conjoint, alors là, je serai heureux. Je serai heureux si on a pu comprendre ça. Le Seigneur te tient responsable en premier de l'attitude que tu dois avoir envers ton conjoint. Et il est capable de te changer pour que tu sois en bénédiction à ton conjoint et par là même à l'Église et au monde. Amen. Seigneur, je te prie pour moi-même en premier. Tu me fais constamment comprendre, Seigneur, à quel point est grande ma responsabilité de mari, parce que tu me places vis-à-vis de ma femme comme Christ vis-à-vis de son Église. Et Seigneur, de moi-même, j'en suis complètement incapable. Et je demande ta grâce, je crie à toi pour que tu me fasses grâce, Seigneur, et pour que tu me remplisses de l'Esprit de Christ, de cet Esprit merveilleux de sacrifice, de don de soi, Seigneur, et d'amour parfait, pour que je puisse déverser, Seigneur, cet Esprit sur mon épouse et lui faire du bien en ton nom, pour qu'elle soit heureuse, Seigneur, avec moi, et pour qu'elle puisse, elle aussi, s'épanouir à ta lumière. Seigneur, je te prie de la bénir. Je te remercie de me l'avoir donnée comme épouse et je te prie, Seigneur, de m'aider à la faire grandir en toi et à l'amener à la perfection, à la sainteté parfaite, parce que tu m'auras d'abord déjà visité, Seigneur. Seigneur, je te prie de le faire pour tous les couples chrétiens, pour que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que le Seigneur veut nous rappeler que Il nous a annoncé dans l'Apocalypse que son épouse s'est préparée à son retour et qu'il a été donné à l'épouse de se préparer et de se revêtir du fin lin qui est la justice des saints. Donc nous devons garder dans nos cœurs cette précieuse parole qu'il a été donné à l'épouse de se préparer et elle s'est revêtue de la justice des saints. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire maintenant dans la vie de son épouse, de celle qui le connaît vraiment, qui l'attend, qui attend l'époux qui vient du haut du ciel. L'épouse se prépare et en tant qu'épouse, tu dois savoir que le Seigneur te donne le temps de te préparer parce que tu désires ardemment te préparer. Merci mon Père, merci Seigneur.